Frédéric Lasserre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur chez CM Finance. On va parler avec vous de matières premières et notamment de pétrole. Alors, c'est vrai qu'on a connu des mouvements spectaculaires au cours des derniers mois. Quelle est un peu votre analyse du moment? On a l'impression qu'effectivement, pour l'instant, ça devient peut-être un peu plus volatile. Sur la tendance de fond?
Sur la tendance de fond, je pense qu'après l'effondrement des cours qui a été expliqué pas seulement, mais en grande partie par cet afflux de pétrole de schiste en provenance des États-Unis, le marché attend de voir si la baisse des prix aura cet effet d'ajustement. Et donc, montre quelques signes d'impatience, d'où cette volatilité que vous mentionnez, sur la baisse, la réduction de la production américaine de pétrole de schiste, qui pour l'instant se fait attendre. C'est normal, la baisse est relativement récente, il y a un effet d'inertie tout à fait compréhensible lié à la nature même de cette industrie. Ce n'est qu'à partir de la fin de l'année qu'on devrait assister à cette baisse tant attendue de la production américaine.
Alors, il faut peut-être rappeler que justement ce gaz, il y avait des coûts de production différents du pétrole traditionnel. Et à quel moment, justement, on va dire, il y avait des vrais sujets pour les États-Unis, pour les acteurs en tout cas.
Alors, il y a aujourd'hui un grand débat, effectivement, sur essayer d'estimer, d'évaluer quel est le point mort pour ces producteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la baisse des prix est suffisante? Finalement, est-ce qu'on est passé en dessous du seuil de douleur pour ces producteurs indépendants qui va les forcer à réduire leurs investissements? Il semblerait que ce soit déjà le cas, puisqu'on a eu des annonces très fortes, des annonces pour l'instant, de réduction de CAPEX de l'ordre de 35 à 40%, ce qui est vraiment très significatif. Encore une fois, ça ne s'est pas encore traduit de façon perceptible sur le terrain par une réduction de la production. Ce qu'on voit en revanche, c'est qu'il y a moins de puits de forage qui ont été commandés. Et donc, encore une fois, le processus est engagé, mais le dernier maillon, ce sera effectivement le ralentissement de la production, voire à terme une baisse si les prix restent au niveau actuel.
On est toujours au niveau global, au niveau mondial, sur une surproduction, c'est-à-dire en tout cas par rapport à la demande, que ce soit demande européenne, demande américaine.
Tout à fait. Aujourd'hui, en instantané, le marché porte un excédent d'environ 2 millions de barils par jour, donc rapporté à 92-93 millions de barils par jour pour la demande. Donc on est sur 2%, un peu moins, autour d'excédent. Donc c'est à la fois peu rapporté à la demande, mais c'est beaucoup en fait pour un excédent. Et puis le marché s'inquiète un peu de la possibilité de voir cet excédent s'accroître. D'une part, on en a parlé parce que la production américaine ne ralentit toujours pas. Et puis le retour de l'Iran, à la suite des négociations qui semblent plutôt bien engagées maintenant, pourrait rajouter un gros million de barils par jour par-dessus cet excédent. Et là, le marché devrait encore une fois baisser pour finalement intégrer dans les cours l'accroissement de l'excédent.
Alors, on avait eu au cours des dernières années la Chine qui était au cœur de la hausse quand on parlait des cours de pétrole, c'était toujours en suivant la courbe de la croissance chinoise. Aujourd'hui, on a des vraies inquiétudes sur, en tout cas, on voit que le niveau de croissance n'est plus le même. Qui finalement est à la manœuvre en quelque sorte sur ces prix du pétrole?
Alors aujourd'hui, on a un ensemble de facteurs à la fois fondamentaux, physiques, vous l'avez mentionné, la demande, qui a été aussi l'un des éléments qui a expliqué l'ampleur de la correction des cours. En 2014, la demande mondiale a été très faible relativement au PIB mondial en termes d'élasticité, de rapport de l'un à l'autre. On est sur des niveaux historiquement bas. La météo explique sans doute en partie ce déficit, mais également peut-être une tendance plus profonde de meilleure efficacité énergétique, autrement dit la croissance mondiale est de moins en moins énergivore, y compris en Chine, où on voit maintenant une normalisation de la consommation relativement à la croissance économique.
On voit tous ces conflits au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui auraient pu avoir de l'impact finalement, quand on voit effectivement des pays en proie à la guerre civile complète, des puits de pétrole qui peuvent être attaqués. Finalement, on n'a pas eu tellement d'effets géopolitiques, on pourrait dire, en tout cas jusqu'à présent.
Non, c'est vrai, vous avez raison, la prime de risque traditionnelle, géopolitique, a été gommée en quelque sorte par justement l'excédent d'offres en provenance des États-Unis. Donc le marché avait ce sentiment de sécurité en se disant, quoi qu'il arrive, même si la Libye restait absente du marché pendant de longs mois, il y a maintenant un producteur autre que l'Arabie Saoudite capable de faire l'ajustement, d'offrir ce pétrole supplémentaire. Donc la prime de risque est restée modeste. ça pourrait changer si, encore une fois, dans le même temps, on avait un ralentissement de la production américaine et des événements géopolitiques beaucoup plus importants. On voit que dans la région, après la Libye, la Syrie, l'Irak, maintenant l'Arabie Saoudite avec le Yémen, c'est un nouveau sujet d'inquiétude pour le marché.
Oui, il y a 10 ans de cela ou 15 ans de cela, on aurait parlé du détroit d'Ormuz, de bateaux de guerre dans le détroit d'Ormuz. Il y aurait eu un impact effectivement immédiat sur les cours du pétrole. C'est plus forcément le cas.
Tout à fait. Alors là, on est de l'autre côté du détroit d'Ormuz. On est plutôt dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui est juste entre le golfe d'Aden et la mer Rouge. Mais il y a également des enjeux pétroliers. Ça n'est pas un rail aussi important que le détroit d'Ormuz, mais il y a quand même 3,5 millions de barils par jour qui passent là dans les deux sens, en remontant et en descendant. Donc effectivement, une prise de contrôle de l'ensemble du Yémen par les milices chiites pro-iraniennes, il faut le dire, pourrait porter une certaine menace sur ce détroit qui est critique, et c'est pour ça que l'Arabie Saoudite d'ailleurs est intervenue de façon préventive pour qu'on n'en aille pas jusqu'à cette extrémité.
On a aussi souvent parlé sur ces marchés de cycle, hein, pour les matières premières en général, en disant qu'on était à la fin d'un cycle. Est-ce qu'on a une idée de où on se situe justement par rapport à ce cycle, puisqu'il y a souvent des cycles assez longs?
Alors il y a deux visions qui s'opposent. Il y a ceux qui sont les tenants du supercycle en disant que nous faisons une sorte de pause dans le supercycle, qui est liée à une pause de croissance économique au niveau mondial. On l'a vu dans toutes les grandes zones, l'Europe, mais également l'Asie. Les grands émergents sont un petit peu en panne de croissance. Ils cherchent des relais pour relancer leur croissance. Et puis il y a ceux qui disent que finalement ça n'était pas un super cycle, qu'on a connu un cycle un peu plus fort que les autres et que nous sommes dans la phase de normalisation, où on a réinvesti dans des capacités de production et où maintenant on reporte de nouveau un excédent global, en dehors du cas du pétrole hein, même, d'excédent de production dans les métaux, dans l'énergie, à certains égards sur certains produits agricoles également. Donc on est dans la phase descendante ou d'amortisation plutôt des investissements déjà consentis dans la phase précédente.
Oui, ce qu'on regardait souvent sur ces métaux que vous évoquez, des signaux pour voir si la croissance chinoise allait repartir ou pas. Quand on voit les graphiques aujourd'hui, on se pose pas mal de questions vu les niveaux atteints.
Oui, alors la croissance chinoise est un petit peu dans cette situation de croissance faible relativement à la taille du pays. Hein, 7% de tout le monde s'en contenterait. Pour les Chinois, c'est maintenant un peu la limite basse. Il ne faudrait pas que ça descende plus bas, sinon ça pourrait s'appeler une récession, même à 5% de croissance nominale. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché commence à espérer et à lire dans les communications de la Banque centrale chinoise et des autorités la possibilité d'aller vers un QE à la chinoise, ce qui ouvrirait les espoirs de voir effectivement l'investissement, la consommation repartir en Chine et qui donnerait un coup de fouet au marché des matières premières, en particulier les métaux, qui, on le sait, sont encore plus que le pétrole sensibles à la demande chinoise.
Merci Frédéric Lesser d'avoir fait le point avec nous.
Merci.